Bienvenue dans 300 secondes de crime, une série d'épisodes hebdomadaires faisant partie du podcast Contre-enquête. L'épisode d'aujourd'hui est particulier puisqu'il s'inscrit dans le cadre du Podcaston, un mouvement de solidarité au sein de l'écosystème du podcast dont l'objectif est de soutenir les associations caritatives et encourager les dons. Pour ma part, j'ai choisi de vous inviter à soutenir la Fondation Douglas à Montréal, qui fait de la recherche et offre des soins dans le domaine de la santé mentale. Vous trouverez dans la description de cet épisode un lien vers la page des dons de la Fondation et je vous encourage évidemment à faire un don, même modeste, pour cette Fondation. N'oubliez pas qu'au Québec, vous pouvez en tout temps appelez le 811 qui permet de joindre rapidement un professionnel en intervention psychosociale en cas de besoin. Et pour rester en lien avec le sujet de la maladie mentale, tout en restant dans le cadre des récits criminels de ce podcast, je vous propose de nous plonger dans l'affaire Cathy Bush, une histoire criminelle intimement liée à ces enjeux qui a éclaté dans les années 90 aux États-Unis. Cette affaire complexe raconte l'histoire de Cathy Bush, une mère accusée de maltraitance médicale sur sa fille, Jennifer. Au cœur de ce récit, on trouve les défis concernant la détection des maltraitances faites aux enfants. C'est un dossier qui soulève le sujet du syndrome de Munchausen par procuration, un trouble psychiatrique rare, mais grave, aussi appelé trouble factice imposé à autrui. Le syndrome de Munchausen par procuration, identifié pour la première fois dans les années 70 par le pédiatre britannique Sir Roy Meadow, décrit une situation dans laquelle un parent ou un soignant crée ou simule des problèmes de santé chez une personne dont il a la charge. Ce syndrome, souvent motivé par un profond besoin d'attention et de reconnaissance, peut mener à des comportements extrêmement dangereux, y compris à l'administration de substances nocives ou la fabrication de symptômes pour justifier des soins médicaux. Dans l'affaire Cathy Bush, ce n'est donc pas la personne affectée par le trouble qui vit les problèmes de santé, mais c'est sa fille Jennifer à qui Cathy fait subir les conséquences de son trouble. Le cas de Cathy Bush intervient dans un contexte où les diagnostics de ce syndrome commençaient à être de plus en plus fréquemment posés, souvent de façon controversée, car celui qui l'a découvert, le docteur Roy Meadow, a ensuite été désavoué et radié de l'ordre des médecins pour avoir faussement accusé les femmes d'être atteintes de ce syndrome. D'une façon générale, ce type de dossier soulève donc d'importants enjeux pour l'intervention des services sociaux, la compréhension exacte du problème et l'implication des professionnels de santé qui sont confrontés à un défi, celui de protéger les enfants tout en évitant de commettre des erreurs de diagnostic potentiellement dévastatrices. L'affaire Cathy Bush s'articule autour d'une série d'événements médicaux qui affectent la santé de Jennifer Bush, née au milieu des années 80. Dès son plus jeune âge, Jennifer fait face à une multitude de problèmes de santé, entrant et sortant régulièrement de l'hôpital pour des raisons variées. Ces dossiers médicaux révèlent une histoire de près de 40 interventions chirurgicales avant même l'âge de 8 ans, pour des symptômes allant de troubles gastro-intestinaux à des convulsions, ce qui est exceptionnellement élevé pour un enfant de son âge. Cathy Bush apparaît initialement comme une mère dévouée et attentive, se battant sans relâche contre les maladies mystérieuses de sa fille. Elle est souvent en première ligne, cherchant des traitements et remettant fréquemment en question les diagnostics et recommandations des médecins dans le but de trouver de meilleures solutions pour sa fille. Cependant, au début des années 90, des incohérences commencent à apparaître entre les symptômes rapportés par Cathy et ceux observés cliniquement par les professionnels de santé. Quelques années plus tard, la situation prend une tournure décisive quand un signalement est fait au sujet de la famille Bush au service de protection de l'enfance pour un potentiel cas de maltraitance médicale. Les médecins, intrigués par la fréquence des problèmes de santé et des hospitalisations de Jennifer, suspectent alors une manipulation des symptômes de la part de Cathy et exercent donc une surveillance attentive et un suivi très précis de l'évolution du dossier. Cette période de surveillance révèle des disparités frappantes entre les symptômes de Jennifer en présence de sa mère et ceux observés indépendamment par le personnel médical. L'un des points clés qui renforce les soupçons des médecins est l'amélioration notable de l'état de santé de Jennifer lorsqu'elle est séparée de sa mère. D'autres éléments troublants sont mis à jour, comme le fait que Jennifer avait souvent des niveaux de médicaments dans son organisme qui ne correspondaient pas aux doses prescrites, et même des médicaments qui ne lui avaient pas été prescrits. Les médecins iront jusqu'à soupçonner que des échantillons d'urine auraient pu être échangés avec ceux de quelqu'un d'autre. En 1995, les autorités, après une enquête approfondie, prennent la décision de retirer Jennifer à la garde de Cathy Bush. Cette action marque le début d'une série de nouvelles investigations judiciaires et médicales. La situation attire alors évidemment l'attention des médias, qui lancent un débat public sur la validité des troubles de Jennifer et les actes de Cathy Bush, plongeant ainsi la famille dans une controverse nationale. Alors que Jennifer a été retirée à la garde de sa mère en 1995, les autorités, et notamment le département de l'enfance et des familles de Floride, se lancent dans une investigation de plus en plus poussée pour essayer de comprendre la nature exacte des multiples maladies de Jennifer et évaluer le rôle de Cathy Bush dans l'état de santé de sa fille. Les enquêteurs se penchent sur le dossier médical complexe de Jennifer, analysant chaque hospitalisation et chaque intervention chirurgicale. Ils interrogent de nombreux médecins, des infirmières et d'autres professionnels de santé qui ont pris soin de Jennifer au fil des années. Ces témoignages confirment sans aucun doute les contradictions et les incohérences dans les récits de Cathy Bush concernant l'état de santé de sa fille. Plusieurs professionnels expriment aussi des doutes sur la nécessité de certaines interventions chirurgicales qui ont été menées et questionnent la précision des symptômes rapportés par Cathy. L'enquête s'étend également à l'examen des interactions de Cathy Bush avec le personnel médical. Des enregistrements et des témoignages dépeignent une mère extrêmement impliquée, parfois de manière intrusive, dans les soins médicaux apportés à sa fille. À plusieurs reprises, Cathy a même insisté pour que des traitements spécifiques soient mis en œuvre et elle a souvent remis en question les décisions médicales. Ceci n'est pas tout à fait inhabituel puisqu'il n'est pas rare que des parents contestent ou questionnent les décisions des médecins pour leurs enfants. Mais dans le cas présent, ces situations apparaissent suspectes aux yeux des autorités qui y voient une tentative de la mère à forcer les médecins à traiter sa fille. Un autre aspect clé de l'enquête est la remarquable amélioration de la santé de Jennifer après avoir été placée sous la garde des services de l'État. Les enquêteurs constatent une diminution impressionnante des symptômes et des besoins en traitement, ce qui renforce évidemment les soupçons d'une influence néfaste de sa mère sur l'état de santé de la fille. Ce cas soulève aussi des questions sur la façon dont le système de santé et les services sociaux interagissent avec les familles confrontées à des maladies chroniques, souvent avec des complications, et sur la fiabilité de certains diagnostics dans des cas aussi ambigus. Le procès de Cathy Bush a lieu en 1999 et c'est un moment clé dans le dossier. Cathy est accusée de fraude médicale et de maltraitance envers sa fille Jennifer. Au cours du procès, l'accusation s'appuie sur les témoignages de professionnels de la santé qui ont soigné Jennifer, mettant en avant les nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales subies par l'enfant, qui sont jugées excessives par certains experts. La poursuite souligne évidemment l'amélioration significative de la santé de Jennifer après son placement sous la protection de l'État, suggérant bien entendu une influence néfaste de Cathy sur la santé de sa fille. De son côté, la défense présente des experts médicaux qui contestent l'existence du syndrome de Munchausen par procuration. Dans ce cas précis, ils avancent que les maladies de Jennifer étaient bien réelles et que les motivations de Cathy étaient celles d'une mère inquiète pour sa fille. Le 7 octobre 1999, après 7 heures de délibération, le jury rend un verdict de culpabilité. Cathy est condamnée à 5 ans de prison, suivie de 5 années de probation. Lors de sa dernière audience de détermination de la peine, un travailleur social a lu une lettre de Jennifer. Dans ce document, elle dit que lorsqu'elle pense à sa mère, elle se met très en colère et qu'elle éprouve beaucoup de chagrin. Le procès a mis en lumière toute la complexité de ce type d'affaires, avec des experts médicaux témoignant les uns contre les autres des deux côtés, certains soulevant l'hypothèse du syndrome de Munchausen par procuration, tandis que d'autres mettent en doute cette conclusion. Cathy Bush, pour sa part, ne cesse de contester ces accusations. Elle passe 3 années en prison, une sanction qui n'a pas mis fin au débat sur sa culpabilité ou son innocence auprès du public. Ce récit est maintenant terminé, ou presque. L'ultime rebondissement de cette affaire est survenu en 2004. Malgré l'interdiction qui lui a été faite de voir sa fille, Cathy a commencé à écrire à Jennifer depuis sa prison. Jennifer, alors plongée dans le système de placement familial, une expérience qu'elle décrit comme traumatisante, a trouvé dans ses échanges avec sa mère une bouée de sauvetage émotionnel. À sa majorité, Jennifer a demandé la levée de l'interdiction de contact avec sa mère, ce qui lui a été accordé. Aujourd'hui, âgée de 27 ans, elle entretient une relation proche avec Cathy et affirme que sa mère ne l'a jamais maltraitée. Jennifer soutient désormais que sa mère a été victime d'une forme d'hystérie médiatique. On ignore quel est son état de santé actuel, mais elle semble heureuse d'avoir renoué avec sa mère. L'affaire Cathy Bush, riche en rebondissements, demeure un cas particulier dans l'histoire des diagnostics médicaux et de la justice. Pour conclure, on peut dire que cette affaire souligne l'importance de la recherche et d'une bonne connaissance des causes, des effets et des traitements des troubles de santé mentale. Voilà qui nous ramène donc à l'occasion de ce podcaston à un appel pour vos dons pour la Fondation Douglas à Montréal, dont le lien est dans la description de cet épisode. C'était 300 secondes de crime. Je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas de vous abonner au podcast Contre-enquête sur Apple Podcasts, sur Spotify pour ne rien manquer des prochains épisodes de cette série et des autres séries de ce podcast.